à votre santé. 188e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices et les auditeurs de RVM. Aujourd'hui, nous sommes quatre dans notre studio. À mes côtés...
Jean-Pierre Gruyer.
De quelle association? Pardon.
Alors, je fais partie de l'association France Alzheimer Oise.
Merci.
Cerise, stagiaire à RVM.
Et Daniel Cléroul, vice-président de l'association. Voilà, bonjour les amis du 93.7, l'association RVM, la seule radio non commerciale.
Et moi-même, donc, Hélène Mazure. Donc, vous avez deviné qu'avec notre invité, notre sujet principal allait concerner les patients de la maladie d'Alzheimer et leurs familles.
On va vous demander déjà de vous présenter, puis votre itinéraire, ce qui s'est passé dans votre vie pour en arriver à être actif dans une association qui soutient les aidants de la maladie d'Alzheimer. Voilà.
Alors, j'ai toujours été très engagé dans le domaine associatif, mais lorsque nous sommes arrivés à Crépy-en-Valois, on s'est aperçu que mon épouse avait la maladie d'Alzheimer. Autrement, je suis au conseil d'administration de France Alzheimer Oise et je suis le référent France Alzheimer pour la région de Crépy-en-Valois.
Elle avait quel âge, votre épouse, quand elle a été atteinte?
Alors, mon épouse avait 54 ans.
Ouais. D'accord.
Donc, on va revenir, bien entendu, parce que là, c'est un témoignage, si j'ose dire, de première main, puisque c'est vous qui avez vécu tout cela. Et ça va nous permettre donc d'avancer dans la connaissance de la maladie. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, j'ai vu, j'ai assisté à la projection du film et au débat. Vous distribuez des petits dépliants, donc je le dis à tout le monde, on peut s'informer aussi comme ça. Et il y en a un qui s'intitule « 10 signes qui posent question ». Et en effet, combien de fois on entend dire « Oh là là, j'oublie tout, oh bah c'est sûrement Alzheimer ». C'est-à-dire que voilà, on parle tellement de cette maladie, d'abord on la connaît mal et on la banalise en quelque sorte.
Tout à fait.
Et donc, Monsieur Gruyer, pouvez-vous nous dire, voilà, nous donner des points de repère pour savoir quand on doit finalement s'alarmer?
Alors, je vais vous citer le cas de mon épouse, parce que c'est celui que je connais le mieux. Donc, j'ai aussi des expériences, parce que j'anime les cafés mémoire et les formations des aidants. Mon épouse, qui était très liée avec sa sœur, qui était psychiatre, elle s'appelait tous les soirs. Et puis, sa sœur, au début de l'année 2006, est décédée. Donc, elle a commencé à avoir des pertes de mémoire, des problèmes de repères dans l'espace. Elle commençait à chercher certains mots. Et puis, elle était... son tempérament, son caractère avait changé. Donc, elle est allée voir un médecin traitant où on habitait à cette époque-là, qui a dit, bon, c'est une dépression nerveuse. Puis bon, ça a duré 4-5 mois. Elle perdait ses cartes bancaires. Donc, et puis, petit à petit, on s'est rendu compte avec ma fille qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, ma fille habitant sur Paris, nous sommes allés voir un neurologue à la Riboisière qui, tout de suite, a fait un IRM plus des tests psychologiques. Et là, on s'est aperçu qu'elle avait donc la maladie France Alzheimer. Et là, ça a été terrible parce qu'elle avait 54 ans, 55 ans. Et en plus, elle était encore en activité. C'est ce qu'on appelle les malades jeunes jusqu'à 65 ans. Donc, les problèmes de la maladie que je ne connaissais pas, à part dans l'ancien temps, les grands-parents, tout ça, qui avaient des problèmes de mémoire, qui ne fermaient pas le gaz, et ainsi de suite. Et donc là, le neurologue, qui était extraordinaire, nous a pris en charge. Et donc là, à cette époque-là, on a déménagé sur Crépy-en-Valois. Et je remercie, alors là, du fond du cœur, le docteur Dahan, qui m'avait été conseillé par un médecin de Beauvais, et qui a été formidable, parce que le centre médical du Valois étant tout près de chez moi. En plus, il a fallu assurer après des séances de kiné. Et donc, il y avait un kiné avec... pendant un moment, elle était dans un fauteuil roulant. Donc, il fallait que ça soit pratique pour aborder avec le fauteuil roulant. Mais c'est très dur à vivre parce que vous êtes avec une personne que vous aimez. Parce que moi, j'ai aimé mon épouse à 15 ans. Donc, et puis là, petit à petit, vous apercevez que ce n'est plus du tout la même personne. C'est ce qu'on appelle le deuil blanc, c'est-à-dire que petit à petit, parce que c'est une maladie évolutive, donc on ne reviendra pas en arrière. Comme je dis, c'est une maladie sans retour. Il n'y a pas de retour. Et donc, il faut vivre, il faut s'adapter en permanence avec le malade.
Oui, et est-ce qu'il y a des paliers de stabilité
Ce qui est aussi terrible dans cette maladie, c'est que par moments, vous avez tendance à reprendre espoir. Et puis, d'un seul coup, ça se dégrade rapidement. Je vous cite un exemple. Mon épouse devait s'enlise à l'accueil de jour. Et notre chambre est au premier, parce qu'elle a aussi l'appartement, le lieu où on habite, qui est très très important. Elle ne pouvait plus descendre les marches. Donc, il a fallu que je la fasse descendre sur les fesses, une marche par une marche, pour arriver à la mettre dans la voiture et la conduire à Senlis. Donc vous voyez tous les problèmes que ça peut poser. Et puis, avec mon épouse, on dialoguait souvent, on regardait les débats, et là, d'un seul coup, le langage n'existe plus. Elle n'arrivait plus à trouver les mots. Donc c'est pour ça qu'on parle de deuil blanc, parce qu'on se retrouve avec une autre personne. Alors comme je dis, la personne, elle ne parle plus, mais elle ressent les choses. Donc là aussi, c'est important. Il y a le toucher, on a cinq sens, donc mais je peux vous assurer que c'est une évolution sans arrêt, il faut se remettre en question. Il faut essayer d'avoir un coup d'avant pour anticiper ce qui risque de se passer.
Alors moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que, vu que c'est pas toujours le même état, est-ce qu'il y a des moments de conscience de l'état par la malade?
Alors, l'association, c'est France Alzheimer, mais aussi c'est France Alzheimer et les maladies apparentées. Mon épouse, on a découvert après qu'elle avait la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ce qu'on appelle communément la vache folle. Donc, elle avait des tremblements. Mais elle avait aussi des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est vrai que des fois, comme je disais tout à l'heure, on reprend espoir, et puis d'un seul coup, ça se dégrade. Et on ne revient jamais en arrière. Je veux dire qu'à chaque fois, on a franchi un autre palier et ça va continuer de descendre. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie sans retour.
Donc, en fait, il n'y a pas de conscience du problème. Est-ce qu'il y a des moments... Parce que j'ai vu un film récemment. Alors, je n'ai plus me souvenir le titre. Nous en avions parlé.
Le Faveur.
Le vieux.
Ah, mon vieux.
Mon vieux. Et où, bon, apparemment, c'était quand même le début de la maladie, parce que parfois, son fils discutait avec lui, et puis à un moment, il a dit « Ah bah oui, ça va pas ce que j'ai fait.
Ouais. »
Mais d'autres fois, pas du tout. Il restait ferme sur ce qu'il avait réalisé, et il ne voulait pas en démordre, même si c'était pas quelque chose de raisonnable.
Alors, tout à fait, mon épouse, lorsqu'elle voulait faire quelque chose qu'elle n'y arrivait pas, elle se tapait sur les cuisses, non pas contre nous, mais contre elle, parce qu'elle n'arrivait pas à faire les choses. Oui, elle a toujours été lucide, mais ce qui est difficile dans cette maladie-là, c'est que vous avez tout. Quand on fait les formations des dents, on décrit tous les symptômes que le malade peut avoir.
Oui.
Mais chaque malade est un cas différent.
Oui,
oui, ça, c'est ce qu'on dit toujours de toutes ces maladies.
Alors, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a la perte de mémoire, le problème du langage, le problème de se repérer, de plus suivre une conversation, quelque chose de logique, prendre une bouteille par exemple, elle n'arrive plus à prendre la bouteille par exemple.
Donc il y a la perte de gestes quotidiens,
oui.
De gestes habituels quotidiens simples. Donc ça, ça fait peur parce que la mémoire, on sait bien, tous, on oublie, etc. Mais si après, on ne peut plus faire des choses ordinaires, là, ça doit être très dur pour la personne qui accompagne.
Ah, c'est très, très, très dur. Mais il faut essayer de laisser... Alors, là aussi, se pose une question. Est-ce qu'on laisse faire les choses aux malades, avec des risques? Alors, il ne faut pas trop le materner. Il faut aussi lui laisser une certaine...
Autonomie,
qu'il puisse aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire.
Bien sûr.
Moi, je sais que je l'allais laisser faire les courses dans Crépy-en-Valois. Des fois, elle se perdait. Bon, heureusement, il y avait des gens charmants qui la remettaient sur le droit chemin. Par contre, il y avait des gens, mais bon, c'est une minorité, on ne va pas en parler. Cette maladie, si vous aimez mieux, c'est... Le terme médical, c'est la démence. Donc, j'ai tenu de nombreux stands pour France Alzheimer, dans les salons seniors et ainsi de suite. Et ce qui est frappant, c'est que les gens, dès qu'ils voient France Alzheimer, ils s'écartent. Parce qu'ils pensent que c'est une maladie, ça ne s'attrape pas, c'est pas contagieux, rien du tout. Et ils ont peur de cette maladie. Alors, les gens qui viennent au stand, ce sont des gens qui sont touchés par la maladie, les parents, les époux, ainsi de suite, ou les jeunes qui vont rentrer dans ce métier.
D'accord, c'est des gens directement intéressés. Je peux dire, moi, ayant été aussi dans une association de malades, une maladie neurologique, pareil, chronique, hein, donc non guérissable, que il y a déjà de la part des patients ou de la famille ou de l'entourage, parfois, même assez souvent, une réaction de déni dans un premier temps. Mais le pire, c'est par rapport à l'entourage, donc déjà une espèce de silence, on essaye de masquer, enfin, etc. Et lorsque ça tombe et que on commence à en parler, eh bien, il y a ceux qui s'écartent. Et moi, je pense que ceux qui s'écartent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de parler, de continuer, comment dire, à fréquenter, à parler avec la personne comme avant. Parce que même s'il y a une évolution, donc là, évidemment, elle est importante, la personne, elle garde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des sentiments. Elle garde une affectivité, on dit parfois une familiarité, même si elle a pu la mémoire. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, c'est compliqué parce que les choses se dégradent. Donc, mais il faut continuer avec le reste, la personne est toujours là. Donc, moi, elle aimait la musique. Donc, toute la journée, il y avait de la musique. Des fois, je l'entendais chanter, des fois, je l'entendais rire. Bon, c'est un bonheur. Et puis, bon, il y a des moments. Alors, je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit, c'est le déni.
Oui.
Et souvent, lorsqu'on va voir la famille ou les proches ou les amis, les gens disent, ben, d'abord, ils ne s'en aperçoivent pas au début.
Oui.
Parce que le malade, là aussi, on ne sait pas pourquoi, mais on a l'impression qu'il fait tout pour que ça se passe bien, pour pas qu'on remarque la maladie.
Oui. Avec les extérieurs. C'est tout à fait pareil avec d'autres maladies.
Il y a un camouflage. J'ai des exemples aussi.
Il y a des ressources, on ne sait pas pourquoi, mais il y a plus de ressources pour faire face.
C'est fugace, mais oui. Ouais.
Alors, en plus, si vous aimez mieux, souvent, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes familiaux qui viennent se greffer dessus, ce qui complique encore les choses. Moi, j'ai eu la chance, j'ai qu'une fille, donc ça n'a pas été... Ma fille et mon petit-fils ont toujours été très, très présents. Alors, c'est vrai que des fois, ils sont dans le malade dans son monde, il faut essayer de changer de logiciel, de parler d'autre chose. Parce qu'autrement, il reste là-dessus. Alors, une chose que souvent les gens me disent, oui, mais regarde les chansons anciennes, ils les souviennent. Ils s'en souviennent.
Oui, oui. Mmh.
Alors, dans cette maladie-là, si vous aimez mieux, l'hippocampe ou ce siège de maladie, c'est ce qu'on appelle l'encodage. Donc, tout ce qui est récent, comme ils sont atteints, ça n'encode plus. Mais tout ce qui est très, très ancien, comme les vieilles chansons, la valse bleue, et ainsi de suite, ils s'en souviennent, ou des souvenirs.
C'est acquis, oui.
Pour répondre, j'ai pas répondu tout à fait à votre question, concernant quand on pense qu'il y a un problème de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, je crois que le meilleur moyen, c'est d'aller voir le généraliste. Et à partir de là, le généraliste vous oriente sur un neurologue pour passer un IRM, ou sur un gériatre, ou éventuellement pour passer des tests de psychologie. Éventuellement une ponction lombaire, parce que là, on s'aperçoit réellement ce qu'il en est, c'est le meilleur moyen. Mais souvent, les gens sont en déni. Et moi, je remercie encore une nouvelle fois Monsieur Gubert, qui était kinésithérapeute, le docteur Dahan, l'hôpital de Crépy-en-Valois, et également les pharmaciens, parce qu'ils ont toujours été présents quand on avait des soucis. Parce que là aussi, au bout d'un moment, le malade, est-ce qu'on le laisse tout seul ou pas ? Donc, vous avez besoin d'aller chercher des médicaments, comment on s'organise ? Donc,
bien sûr.
Les pharmaciens et les gens du monde médical étaient présents. Donc, d'où l'importance du centre médical du Valois. Je crois que les gens... Ils ont quelque chose d'une richesse, ça n'existe pas partout. On voit malheureusement le manque de médecins et des professionnels de santé. Et on a ça à Crépy-en-Valois, donc il faut absolument se conserver ce bien qui est très très précieux.
Oh, nous sommes heureux de vous entendre dire ça, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question pour des maladies aussi pointues, si j'ose dire, s'il ne faut pas des spécialistes et uniquement. Mais on le sait très bien qu'en fait, le médecin généraliste, le médecin traitant, comme on disait, c'est lui qui a l'ensemble dans sa tête, dans sa connaissance du patient ou de la patiente, et qu'en plus, c'est celui qui est le plus accessible, le plus proche. Donc, moi aussi, je l'ai expérimenté. Et parfois, il avait des solutions que n'avait pas le spécialiste. Voilà, parce que finalement, de soigner des malades très divers, je pense que voilà, ça enrichit sa connaissance et sa manière de soigner. Donc tout ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que, alors on parle de soins. Quels sont les soins qu'on peut apporter à un patient, une patiente?
Alors là, cette maladie. Il y avait dans le temps des médicaments, certes, qui ne guérissaient pas, ça c'est clair, mais qui avaient tendance quand même à ralentir la maladie, surtout au début. Et puis, on a décidé de les dérembourser. Par contre, ils sont toujours prescrits. Je me pose la question de savoir pourquoi on prescrit encore sur le marché des médicaments qui doivent être prescrits par un neurologue et éventuellement renouvelés par un médecin traitant, alors qu'on ne les rembourse pas. On nous dit, il y a des effets secondaires. Mais je ne sais pas, regardez la liste sur tous les médicaments. Vous avez une liste secondaire qui est très, très longue. Je sais que pour mon épouse, parce qu'elle a eu ce traitement, pendant un moment, j'ai constaté que ça se dégrade, ça se stabilisait. Et c'est surtout ça le plus important.
C'était quoi comme traitement ?
Je me souviens plus.
Des cachets, parce que j'ai mon beau-père qui a eu la maladie d'Alzheimer. C'était des patchs. Est-ce que c'était...
Non, c'était pas des... Enfin, c'était des cachets à prendre.
Oui, d'accord. Mais bon.
Oui, alors, donc il peut avoir donc stabilisation. C'est quand même énorme. Oui. Stabilisation, parce que quand on voit que ça avance, ça avance. Ouais. On peut un petit peu soi-même s'installer dans un certain état de la maladie.
Oui, tout à fait.
Ouais. Mais il n'y a pas de préventif pour ce genre de maladie pour l'instant.
Le plus important, tout ce que fait au niveau de l'association et tout ce qu'on peut faire en dehors, parce qu'il n'y a pas, il y a beaucoup de choses qui sont quand même mises en place. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est mis en place. Ça, on pourra en reparler, mais c'est un autre problème. Il faut absolument maintenir le plus longtemps possible la mémoire qui reste pour qu'elle se dégrade le moins vite possible.
C'est ça. Donc, il faut la stimuler. Voilà.
Alors, par des jeux de société, par des discours, par regarder des films, des choses comme ça, et essayer d'échanger, même si la parole n'est plus là, mais on peut se toucher, on peut faire des gestes.
Oui, puis alors, si la parole n'est pas là, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de pensée?
Non.
Voilà. Non. Il peut avoir la pensée et un obstacle à la parole. Donc, moi aussi, j'ai déjà connu ça. Et donc, c'est très... Enfin, moi, je pense que c'est fondamental, la communication, sous quelque forme, modalité.
Tout à fait.
Soit. Voilà. Je crois que c'est spécifique à l'être humain.
Je vais vous citer une anecdote. Mon épouse ne parlait plus, mais le soir, je lui disais au revoir, je l'embrassais sur les lèvres, puis elle avait un grand sourire. Je lui disais, mais tu aimes ça? Elle me faisait huile de la tête. Je l'allais embrasser à nouveau. Donc, voilà, ça, c'était une autre forme de langage. Elle ressentait les choses. Donc, il faut surtout dépasser cette idée que c'est pas un légume. C'est un être vivant. Il a encore des facultés.
C'est vraiment très important ce que vous dites. Parce que je pense que ça doit être, en quelque part, la mémoire du sentiment, de l'affectivité. Oui. Voilà. Et ça reste. Et la mémoire du plaisir aussi.
Tout à fait.
Ce qui a fait plaisir. Donc, écoutez, Monsieur Grieux, franchement, c'était une émission très riche.
Merci.
Mais on n'a pas fini de vous poser des questions. Donc, on vous réinvitera une prochaine fois.
Oui, avec plaisir.
Et on vous remercie, chers auditeurs, auditrices. Vous pouvez nous écouter le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h. Et bien entendu, en podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.